Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
À toi Seigneur et à toi seul, tu es sur ton trône et tu règnes. Ta parole est la vérité. Et Seigneur, nous voulons encore entendre cette parole de vie. Nous souvenons que notre vie est éphémère. C'est comme l'herbe qui pousse et qui fleurit et qui après disparaît et le lieu où elle était, on ne s'en souvient plus. Même si ce corps passe, Seigneur, peu importe, dans ce vase de terre, tu as mis une âme éternelle. Dans ce vase de terre, tu as mis une nouvelle créature. Et cette nouvelle créature, Seigneur, elle est destinée à la vie. À la vie que tu donnes gratuitement à quiconque croit. Seigneur, donne-nous de grandir en toi par l'écoute de ta parole, d'y obéir et de marcher dans la vérité en nous soumettant à toi, Seigneur. Ô Jésus, parle-nous encore, je t'en prie. Merci, Jésus. Merci. Amen. Merci, Seigneur. Eh bien, chers amis, nous sommes toujours intéressés par les problèmes de notre frère Gédéon, n'est-ce pas? Gédéon nous a déjà enseigné beaucoup de choses quant à nous, à notre vie aujourd'hui et à notre marche chrétienne. Mais son histoire n'est pas terminée. Nous allons nous rappeler, en relisant ces quelques versets, qui se trouve dans Juges au chapitre 6. À partir du verset 36, nous lisons, « Gédéon dit à Dieu, « Si tu veux sauver Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine sur l'air, si la rosée vient sur la toison, seul et que tout le terrain reste sec, je reconnaîtrai que tu sauveras Israël par ma main, comme tu l'as dit. » Il en fut ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison, en exprima la rosée de la toison, plein une coupe d'eau. Gédéon dit à Dieu, « Que ta colère ne s'enflamme pas contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement encore une autre épreuve avec la toison. » Que la toison seule reste sèche et que la rosée vienne sur tout le terrain, tout autour. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche et la rosée vint sur toute la terre. Souvenons-nous de la situation d'alors. La bataille va être engagée, elle est imminente, dans quelques jours. Il n'y a plus beaucoup de temps. L'ennemi remplit la vallée de Jizréel, une immense vallée. Remplit la vallée de Jizréel, des milliers de chameaux et de chevaux, des hommes par milliers. Ils sont armés, bien sûr, mais ils n'ont qu'un seul but, non pas de conquérir un territoire, mais de piller, de voler, de prendre tout ce qu'ils peuvent. Et ceci se passe depuis 7 ans. Il y a 7 ans qu'ils le font. Alors, pourquoi ne pas continuer? Pas de résistance, si ce n'est quelques pauvres individus ici et là. Du reste, on leur fait comprendre. S'ils nous résistent, on les tue. Nous sommes supérieurs. Ce sont nos esclaves. Ils travaillent pour nous. Donc, il n'y a pas d'attente à une bataille du côté de l'ennemi. Il n'y a pas d'attente à une résistance. Ils pensent que cela va continuer ainsi. Pour combien de temps? Mais Dieu s'est levé. Et Dieu a dit, c'est assez. C'est suffisant Pourquoi Dieu ne réagit qu'après cette année? Tout simplement parce que Israël a choisi et a mal choisi. Il a tourné son dos au Dieu vivant pour adorer les faux dieux, les dieux de pierre et les idoles. Alors, malgré l'avertissement par la voix des hommes de Dieu qu'il a envoyés dans le pays, ils n'ont pas écouté, à tel point que Dieu les a abandonnés. Et à partir du moment où Dieu les a abandonnés, voici maintenant l'ennemi qui vient depuis 7 ans. Il a fallu du temps avant que Israël revienne à son Dieu. Il a fallu de la souffrance, des larmes, des pillages, des pertes. Avant qu'Israël revienne à son Dieu, que le cœur de l'homme est dur. Dur et têtu. Il pense pouvoir continuer ainsi. Mais Dieu a dit, c'est assez maintenant. Et il a lâché Israël. Et l'ennemi est venu. Mais subitement, Israël cria à l'Éternel son Dieu. Quelques-uns en Israël, oh, ils n'étaient pas foule, mais quelques-uns se sont souvenus des expériences des pères dans le passé. Et ils se sont souvenus de la loi de l'Éternel. Cette loi, elle n'était pas répandue dans tous les foyers. Du reste, même les prêtres, les souverains sacrificateurs, avaient plus ou moins abandonné le culte. Les Lévites étaient retournés à leur terre pour essayer de produire, intéressés plutôt au lucre, au gain, qu'au service de la maison de l'Éternel. Et c'est ainsi que petit à petit, ils ont manqué quant à leur mission d'apporter le message, ce message merveilleux du Dieu d'Israël à son peuple, avec ses commandements. Et ils ont laissé, oui, peut-être en se lamentant, mais en ne faisant pas grand-chose, pour réagir contre cette apostasie qui pénétrait dans le peuple d'Israël. Et c'est ainsi qu'Israël a glissé de plus en plus dans l'adoration des idoles, et dans les œuvres vaines. Mais subitement, la mémoire est revenue. Faut-il la souffrance? Faut-il la peine? Faut-il les larmes? Faut-il le deuil? Faut-il la guerre? Faut-il les pillages? Pour qu'enfin on se souvienne qu'il y a un Dieu dans les cieux et que ce Dieu répond aux prières de ceux qui savent s'humilier et crier à Dieu, de ceux qui sont prêts à demander, Seigneur, pardonne-moi ma rébellion, pardonne mon péché, s'il te plaît que ta colère ne s'embrase pas contre moi. Toujours est-il qu'il y a eu un groupe d'hommes certainement en Israël qui ont réagi et qui cria à l'Éternel. Et peut-être qu'ils ont engagé le peuple dans sa souffrance à crier à l'Éternel et à supplier, ô Dieu, délivre-nous de ces puissances mauvaises. Baal n'a rien fait pour eux. Baal ne les a pas délivrés. Ils ont prié Baal. Ils ont demandé des secours à Baal. Mais Baal a été incapable de les délivrer du joug de Madian et d'Amalek. Baal a des oreilles et n'entend pas. Baal a des yeux mais ne voit pas. Baal a une bouche mais ne peut parler. Baal est un démon. Ils se souvinrent alors de leur Dieu. Dieu leur envoie un prophète. Nous en avons déjà parlé. Mais il y a un contexte qu'il est nécessaire de savoir et de se rappeler. Dieu leur envoie un prophète. Il n'y a pas le nom de ce prophète. Il n'y a pas rien. Pourquoi prophète? Eh bien, parce que l'Esprit de l'Éternel l'avait saisi et qu'il a parlé. Et qu'il a appelé le peuple à la repentance en apportant la parole que Dieu mettait dans sa bouche. Il ne nous est pas dit si ce prophète a fait l'école de théologie. Il ne nous est pas dit si ce prophète a une onction particulière, disons dans une cérémonie particulière. Il nous est pas dit s'il avait des cartes de visite avec son nom de prophète dessus. Non! Mais c'était un homme qui avait reçu un message de Dieu pour un moment particulier, pour des besoins particuliers, et que Dieu a suscité, et que Dieu a revêtu de son esprit. Pourquoi? Parce que c'était un homme qui craignait Dieu, et qui malgré Baal, malgré la foule, malgré l'engouement de la masse et de la majorité, pour la fausse route, le faux chemin, le faux Dieu, a réagi. Si Dieu l'a envoyé, c'est qu'il ne l'avait pas abandonné. Si Dieu l'a envoyé, c'est qu'il ne s'est pas prosterné devant les Baals pour avoir l'approbation de la foule ou l'admiration de la foule. Si Dieu l'a envoyé, c'est parce qu'il est resté humble à ses pieds et qu'il a cru dans le Dieu vivant. Et subitement, il a senti par l'inspiration du Saint-Esprit, il faut que je parle d'abord. Israël a besoin d'apprendre. Israël a besoin d'apprendre. Israël a besoin de se rappeler. Israël a besoin de revenir à son Dieu et de se repentir. C'est la raison pour laquelle, vous allez voir plus tard, Dieu a délivré Israël qu'avec un très, très, très petit nombre. Pourquoi ? Dieu les connaît. Ils sont prêts à se vanter de leur excellence. Israël a besoin d'apprendre. Oui, mais Gédéon a besoin d'apprendre aussi. En tout cas, je peux vous assurer que Gédéon a eu des grâces extraordinaires. Gédéon a eu des privilèges. Gédéon a eu des privilèges extraordinaires. Tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a entendu, mais c'est formidable. Et ceci nous ramène à l'incident de la toison. Gédéon est un hésitant, malgré tout ce qu'il a vu, malgré qu'il a vu l'intervention de l'ange de l'Éternel, qui a touché le sacrifice de son doigt, et le feu est sorti du rocher, et lui, il a disparu. Gédéon a eu une réaction tout à fait vraie, tout à fait normale. J'ai vu Dieu, je vais mourir. Il n'y avait pas de doute, il savait. Et Dieu lui a parlé, il a entendu cette voix. Non, Gédéon, tu ne vas pas mourir. Je me suis révélé à toi, ce n'est pas pour te faire mourir ou périr, c'est pour te fortifier, Gédéon. Sois fort. Oui, l'Éternel est vraiment avec Dieu. L'Éternel avec lui, avec Gédéon. L'Éternel a transformé toute la situation. Et même son père, adorateur de Baal, a pris son parti, alors que toute la ville s'est levée et réclamait la mort de Gédéon pour la destruction de la statue de Baal et le poteau d'Achéra et l'autel voué à Baal et pour le sacrifice offert sur cet autel fait selon les principes que l'Éternel avait donnés à ses enfants. Il a pris position parce que il sait où est la vérité. C'est un rappel de ce qu'il connaissait, mais il s'était laissé entraîner par la masse, par la majorité, par les bénéfices, par la gloire de la chair. Nous avons vu déjà tout ça. Oui, c'est vrai. Gédéon a vu tout cela, mais il hésite encore. L'Éternel est-il véritablement avec moi? Est-ce bien de faire ce qu'il m'a demandé? Est-ce bien que je rassemble? Oui, j'ai rassemblé déjà ma propre famille, ma propre tribu, la tribu d'Asser, de Zabulon, de Nephtali. Ils viennent, ils sont enthousiasmés. Mais, je n'ai jamais commandé une telle troupe. Est-ce bien vraiment ce que je fais? Oh, Satan est toujours là pour semer le doute, pour vous faire voir combien vous êtes incapable, petit, rien du tout. Oui, c'est vrai, nous sommes incapables, petit, rien du tout. Mais quand le Dieu puissant est avec nous, quand il nous a commandé, quand nous l'avons expérimenté et qu'il nous a couvert, rempli de son esprit, qu'est-ce qu'il demande? L'action! Mais Gédéon place une toison. une peau de mouton avec sa laine sur le sol et demande à Dieu, « Je vais mettre la toison de laine sur l'air. » Et si la rosée vient sur la toison seule et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu sauveras Israël de ma main comme tu l'as dit. Comme tu l'as dit, donc tu le sais. Qu'est-ce que tu veux de plus? La question se pose, est-ce bien? Est-ce juste? Est-ce que le modèle de Gédéon avec la toison, c'est ce que je dois faire? Quand je désire connaître la volonté de Dieu, est-ce que c'est un exemple que je dois suivre? La réponse est non. La réponse est non. La méthode de la toison n'est pas la façon de Dieu de diriger ses enfants. Non. Le grand désir de Dieu est que ses enfants connaissent sa volonté. Et moi-même, je le désire de tout mon cœur, connaître sa volonté. Dois-je aller ici? Où dois-je aller là? Seigneur, conduis mes pas. Je veux savoir, je veux connaître. Et croyez-moi, il va répondre. Pourquoi? Parce qu'il répond aux prières de ses enfants. Mais lorsque vous priez, vous ne pensez pas que Dieu va répondre. Voilà la tragique chose. Et quand il répond, vous ne voyez même pas que c'est une réponse. Pourquoi? Eh bien, parce que ce n'est pas exactement ce que vous avez désiré ou pensé. C'est ça la tragédie. La volonté propre vient en travers de la volonté de Dieu. Des gens très sincères, ils prient à Dieu. « Oh Seigneur, permets que je puisse aller étudier en Europe. Permets, Seigneur, que j'ai mon visa. Permets que. » Et puis le Seigneur ne permet pas, voilà. Et peut-être une autre route s'ouvre ici même dans le pays. Et le voilà qui se lamente. « Oh Seigneur, mais pourquoi? Je t'avais pourtant demandé d'aller en Europe. » Ah oui, tu voulais imposer ta volonté à Dieu, c'est ça. Ne sais-tu pas que la volonté de Dieu est meilleure et supérieure à la tienne? Est-ce la volonté parfaite de Dieu que tu as étudiée en Europe? Que vas-tu trouver là-bas de plus? Dis-moi un peu. Combien de ceux qui sont partis là-bas souhaitent revenir chez eux? Crois-tu qu'il y a moins de valeur, moins de richesse, moins de biens, moins de travail, moins de connaissances dans ton pays? Pourquoi méprises-tu ton pays? Pourquoi méprises-tu les valeurs que Dieu a mises dans ton pays, mises dans l'intelligence des hommes de ton pays? Ne peux-tu pas toi-même apporter une contribution qui fera tâche dans ton pays? Ne veux-tu pas toi-même, avec énergie et la grâce de Dieu et la puissance de Dieu, apporter ce dont ton pays a besoin, un élément que Dieu peut multiplier? Ne crois-tu pas à cela? Ne sois pas toujours négatif. Ah, mon pays, ceci. Ah, mon pays, cela. C'est à croire qu'il n'y a rien de bon ici. Alors qu'il y a 1000 choses formidables et bonnes ici. Pourquoi être toujours négatif? Pourquoi être toujours négatif? On veut aller ici, on veut aller là. Bon, si Dieu veut que tu voyages une fois ou l'autre, que sais-je, pourquoi pas, pour ton éducation, pour voir un peu qu'est-ce que c'est de l'autre côté, là-bas. Mais ta place est ici. Ta place est ici. Il y a un travail à faire ici. Pourquoi être un chômeur là-bas, alors qu'ici, il y a plein de terres à cultiver? Où est ton courage? Où est ta foi? Non. Dieu n'emploie pas cette méthode de la toison. Ce n'est pas la façon de Dieu de diriger ses enfants. Dieu veut nous faire connaître sa volonté, mais sache la voir et la connaître, cette volonté, quand il te la révèle. Nous faisons une grande erreur si nous prenions comme modèle le chemin de Gédéon. Essayons de découvrir pourquoi cette pratique est à éviter. Ce n'est pas parce que Dieu a fait exactement ce que Gédéon lui demandait que forcément cette méthode est bonne et approuvée de Dieu. Dans cette action de Gédéon, qui consiste à mettre une toison sur le sol la nuit pour tester Dieu, il y a quatre choses à savoir. La première chose à savoir, Gédéon n'ignore pas la volonté de Dieu. Alors que cherche-t-il? Il n'ignore pas la volonté de Dieu. Nous le voyons très clairement dans plusieurs versets. Le verset 36, « Si tu veux sauver Israël par ma main, comme tu l'as dit. » Donc, il sait. Et au verset 37, « Je connaîtrai que tu sauveras Israël par ma main, comme tu l'as dit. » Alors, comme tu l'as dit, est-ce que Dieu est menteur? Que cherches-tu de plus? Par deux fois, Gédéon nous dit, et il répète, « Comme tu l'as dit, je l'ai entendu. » Je l'ai entendu, c'est enregistré. Il savait très bien ce que Dieu avait dit. Il savait ce que Dieu voulait qu'il fasse. Il savait que Dieu lui a dit, « Tu es un vaillant homme, tu écraseras Madian et Amalek comme un seul homme. » Tout ça, il le savait. Est-ce que Dieu parle pour rien, Gédéon? Est-ce que Dieu parle simplement pour te faire plaisir? Là, il y a quelque chose de vexant. Si Dieu n'était pas Dieu, je vous assure que c'était un homme, il serait vexé. Pourquoi ne crois-tu pas à ce que je t'ai dit? Que veux-tu de plus? Il savait ce que Dieu avait dit. Il savait ce qu'il voulait qu'il fasse. Son problème n'était pas qu'il n'avait pas la connaissance. Il avait la connaissance. Mais son problème est un problème de doute, d'insécurité. Oui, c'est vrai. Un sentiment humain. Dieu nous confie une tâche. Et devant cette tâche, nous tremblons. Devant cette tâche, nous disons, comment allons-nous l'accomplir? Comment allons-nous le faire? Je le sais, j'ai passé par ce chemin. Un sentiment d'incrédulité, un sentiment d'incapacité, un sentiment de tremblement. Tu m'as appelé, comment puis-je, Seigneur, accomplir la tâche que tu me confies? Tu m'as appelé, je le sais, mais, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'éducation, je n'ai pas été dans une école de théologie, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Croyez-vous que quand Dieu met la main sur un homme, Dieu ne peut pas faire de lui et avec lui des exploits sans tout ce que les hommes peuvent ajouter? Combien d'hommes dans l'histoire et l'histoire de l'Église ont été des champions, des hommes de Dieu extraordinaires, alors qu'ils n'avaient pas ce que le monde peut offrir de bien, j'entends. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces hommes? Ils ont appris au pied de la croix, sur les genoux, et dans le Saint-Livre, le Saint-Esprit nous enseigne. Il vous enseignera toutes choses. Il vous enseignera toutes choses. Et combien d'hommes et de femmes ont été instruits par le Saint-Esprit? Et cette instruction, elle leur a été donnée gratuitement, si je puis dire. Gratuitement, oui, mais eux, ils étaient prêts à apprendre. Et ils ont appris sur les genoux et ils ont appris dans l'étude personnelle. L'instabilité que l'on sent, l'insécurité, tout cela, ce sont des réactions de la chair. Je préfère cet homme qui se sent incapable, qui pleure, qui crie, « Seigneur, je suis faible !» que cet homme qui dit, « Oui, je peux, oui, je sais, oui, je connais, j'ai l'éducation, je connais, je sais. » Non, Dieu ne peut pas l'employer, celui-là. Il y a espoir pour Gédéon. Il y a espoir pour toi. Son problème, c'est ce problème-là d'insécurité. D'insécurité. Faisons une revue de ce que Dieu est en train de faire et de communiquer à Gédéon. Vous vous souvenez, il se cachait dans un pressoir pour battre son blé avec un bâton. Il est découragé et la peur est dans son cœur. Il ne sait que faire. Il est désespéré parce qu'il sait que les ennemis sont en train de venir. Ça dure depuis 7 ans. Et à ce moment-là, l'ange de l'Éternel vint à lui et lui parle. Et à partir de ce moment-là, une œuvre de transformation s'opère en lui. Pour le fortifier, Dieu fait 3 choses. 3 choses en lui. Il lui révèle clairement sa volonté par 3 fois répétées. Au verset 12, au verset 14, au verset 16. Là, sa volonté est clairement répétée. Cela ne peut pas être plus clair. Il connaît donc la volonté de Dieu parfaite et entière pour sa vie. Ensuite, l'ange de l'Éternel lui a donné une révélation claire et puissante de sa personne au verset 21. Là, lorsqu'il est parti et qu'il a mis le feu par son toucher au sacrifice, il n'avait aucun doute sur l'identité de celui qui était. Et il savait que sa mission lui venait de Dieu. Que veux-tu de plus, Gédéon? Enfin, Dieu donna à Gédéon une expérience de sa puissance, de son esprit, alors que le Saint-Esprit le revêtit. Et à cause de ce revêtement de puissance, il a passé à l'action. Il a convoqué Israël. Tous les détails ne nous sont pas donnés. Mais je vois Gédéon comme on ne l'a jamais vu, qui s'en va comme un homme revêtu de la puissance de Dieu, qui parle avec autorité, qui réunit les chefs des tribus, qui réunit tous ceux qu'il connaît, les hommes forts, les hommes capables de porter des armes, et qui enrôle avec un discours enflammé, basé sur la parole de l'Éternel, basé sur ce que Dieu lui a dit. C'en est assez de nous laisser prendre pour des esclaves. Ne sommes-nous pas sortis du pays d'Égypte à bras étendus et à mains fortes? Dieu ne nous a-t-il pas bénis à travers le désert? Nos pères sont rentrés dans ce pays. Les murailles de Jéricho se sont écrasées devant eux tant qu'ils ont marché avec le Dieu vivant. Mais dès l'instant où ils ont adoré les faux dieux des pays qu'ils ont conquis, la bénédiction est partie et c'est pourquoi nous souffrons. Abattons Baal, servons l'Éternel. Tout le monde crie « Oui, Amen !» et bat des mains et il rallie la troupe. Gédéon est différent. Pourquoi? Parce que revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Pourquoi encore? Parce que Dieu lui a donné un message et une autorité. Et tout le monde reconnaît cette autorité. Nous voyons que Gédéon connaissait parfaitement la volonté de Dieu. Est-ce sa parole, sa demande de confirmation dans cet épisode de la toison met en évidence encore ses doutes. Ô, le cœur de l'homme, si tu veux sauver Israël par ma main, pourquoi si? Il l'a dit. Mais Dieu a déjà promis qu'il délivrera et œuvrera à travers lui, Gédéon. Dieu avait déjà fait un miracle pour prouver à Gédéon sa puissance, sa capacité, sa force, pour lui prouver que ce qu'il avait dit était réalité. Par sa demande d'un signe, Gédéon dit à Dieu, d'un signe particulier avec la toison, « Je sais ce que tu as dit. » C'est comme s'il voulait dire ça, « Je sais ce que Dieu a dit, je connais ta volonté et tes promesses, tout ça je le sais, mais je ne suis pas sûr que je te crois. » C'est tellement extraordinaire, je ne suis pas sûr, mais c'est pas possible. Je ne suis pas sûr. S'il te plaît, encore un signe, encore un signe. Et c'est lui qui impose à Dieu le signe qu'il désire. Le premier signe merveilleux qu'il a vu, ce n'est pas Gédéon qui l'a demandé, c'est l'ange de l'Éternel qui l'a commandé. Gédéon a dit simplement, permets-moi d'aller te préparer un bon repas. Si tu as un chevreau, il fait une bonne soupe. Il amène tout ça avec des pains. Et l'ange de l'Éternel lui dit, pose ça sur la pierre qui est là. Tiens, on ne mange pas sur une pierre, mais enfin, c'est ce qu'il demande. Cet homme est différent des autres. Je ne sais pas, il y a quelque chose de particulier avec lui. Bon, il met ça sur la pierre. Heureusement qu'il l'a fait. Celui qui obéit verra toujours des choses extraordinaires. Ça peut te sembler ridicule, peu importe. Et il toucha le sacrifice avec son doigt, et le feu sortit du rocher, et il disparut dans le sacrifice. Ça, Gédéon ne l'avait pas demandé. C'est pas vrai? C'est Dieu qui l'a fait. Chaque fois que l'homme intervient, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. Ça, c'est l'homme. Non, je préfère quand c'est Dieu. Tu n'as pas demandé un signe particulier. Non, mais c'est Dieu qui va faire le signe. C'est Dieu qui va le faire et une part en moyen que tu ne pensais pas. Par une personne que tu ne pensais même pas. Une personne qui t'était opposée, peut-être. Une personne qui te haïssait, peut-être. Ou un ennemi, que sais-je. Ou une circonstance, un signe. Et là, tu sais, oui, c'est lui. Mais là, Gédéon demande quelque chose selon sa propre intelligence. Que Dieu fasse et qu'il intervienne. Quand nous parlons de la volonté de Dieu, nous avons des promesses bibliques que le Seigneur ne va jamais manquer de nous diriger, de nous conduire, de nous guider dans notre marche ici-bas sur la terre, si seulement nous le suivons. Écoutez, je vais lire avec vous quelques-unes de ces promesses parmi beaucoup d'autres. Attention, des promesses que Gédéon ignorait. Il n'avait pas tout le Saint-Livre tel que nous l'avons aujourd'hui. Comprenez bien, Gédéon, il n'avait qu'une tradition orale pour la plupart du temps, et les écrits de la loi, de l'Ancien Testament, des livres de Moïse, c'était des rouleaux, des écrits saints que possédaient seuls les prêtres, les lévites, et qui protégeaient. Mais on n'imprimait pas à cette époque-là. Tout était écrit à la main. Donc la masse n'avait pas ces livres comme nous l'avons dans leur entièreté de nos jours. Alors, vous voulez savoir la volonté de Dieu, mais ouvrez le livre et vous verrez ce qu'il vous dit. Regardez, pour quelques versets que Gédéon ne connaissait pas, dans le psaume 32, verset 8. Là, il est écrit, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu vas suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Voulez-vous quelque chose de plus clair? Lisez avec moi encore le psaume 37, versets 23 à 24. Par l'Éternel, par lui, l'Éternel que vous servez, l'Éternel que vous priez, l'Éternel dans celui que vous avez cru, manifesté en Jésus-Christ. Par l'Éternel, les pas de l'homme s'affermissent. Il n'est pas chancelant. Il prend plaisir à sa voix. Dieu prend plaisir à la voix de l'homme qui le sert. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui soutient la main. Ah, lisez avec moi encore le psaume 48, verset 15. Il est écrit, « Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à perpétuité. Il sera notre guide jusqu'à la mort. » Mais pourquoi voulez-vous douter? Pourquoi voulez-vous encore mettre une toison et demander à Dieu de faire quelque chose selon votre entendement? Vous avez les promesses.
Vous avez les promesses. Mettez-vous alors en accord avec ces promesses. Il sera votre guide, notre guide jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, pourquoi ? Ici-bas, sur la terre, la chair nous sépare de lui. Mais lorsque nous serons dans la gloire, il n'y aura plus de séparation. Nous serons avec lui. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Ésaïe 58, 11. Lisez encore avec moi. L'Éternel te guidera constamment. Ah, mais c'est clair. Dites-moi que c'est pas clair. C'est clair. L'Éternel te guidera constamment. Il te rassasiera dans les lieux arides. Les temps arides, les temps de problèmes, les temps de difficultés, les temps où on manque d'argent, les temps de famine, les temps arides. Il te rassasiera. Tiens-toi sur ses promesses. Dieu n'est pas menteur. Il te rassasiera dans les temps arides et redonnera de la vigueur à tes membres. Seigneur, tu vois, j'ai plus tellement de vigueur, je suis fatigué, je suis malade, ça va pas, il y a ceci, il y a cela. Il te redonnera de la vigueur dans tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme un puits d'eau dont les eaux ne déçoivent pas. Voilà quelques versets, mais il y en a d'autres encore. Mais vous me dites, ah, j'ai besoin d'une toison. Mais ne soyez pas stupides. Écoutez, Gédéon avait plus d'excuses que vous. Beaucoup plus. Croyons-nous à ses promesses? Croyons-nous qu'il répond à nos prières? Voilà la question. Quand je veux utiliser les méthodes de Gédéon, je doute dans les promesses de Dieu. Je doute dans tout ce qu'il vient de dire. C'est comme si je dis, « Oh Seigneur, oui, tout ça c'est des paroles, mais j'aimerais quelque chose de concret. » Alors, quoi donc quelque chose de concret? Est-ce que la révélation divine n'est pas suffisamment concrète? Doutes-tu dans ton Dieu? Et quand je veux utiliser les méthodes de Gédéon, je fais mal, je refuse de tenir ferme sur sa parole, sur ce qu'il a dit. Et ce qui est plus grave, je demande à ce que Dieu me conduise selon mes propres termes. Ça, c'est grave. Et non selon ses termes à lui. Il y a dans cette façon de faire du doute, un manque de foi dans sa parole et dans sa personne. Ça, c'est offensant pour Dieu. Lorsque nous utilisons cette méthode de la toison, c'est nous qui dictons à Dieu ce qu'il doit faire. Gédéon n'est pas venu à Dieu disant, « Seigneur, j'ai plein de doutes. » Il aurait mieux fait de dire cela. « Seigneur, j'ai plein de doutes. Je me sens si faible, si incertain. Seigneur, j'ai peur. J'ai peur contre ces milliers d'ennemis. Qui suis-je? J'ai peur d'emmener mes frères à la bataille. Combien vont mourir? Seigneur mon Dieu, je t'en supplie. Tu m'as dit déjà des choses extraordinaires, c'est vrai. Révèle-toi à moi à nouveau, fortifie-moi dans ma faiblesse. » Oh, il aurait mieux fait de prier comme cela. C'est ce genre de requête qu'il aurait dû faire, notre frère Gédéon. Mais il dit à Dieu, au contraire, « Voici mon programme. Tu vas faire ceci et cela. Et demain, je vais voir si tu as agi selon ce que je t'ai demandé. Que la toison soit mouillée et que le sol tout autour soit sec. Change les lois de la nature pour moi, pour un instant, à ma demande. Est-ce que ceci est convenable? Le Dieu souverain doit faire ce que Gédéon lui demande. Et c'est un peu comme cela que nous agissons dans nos prières. Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais cela. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi cela. Et on prend des versets bibliques n'importe comment. Mais qui sommes-nous pour obliger Dieu, pour donner des ordres à Dieu? Je me souviens, j'ai toujours enseigné mes enfants, je ne veux pas que vous dites « je veux ». C'est mal poli, c'est mauvais. Tu dis « j'aimerais ». Il y a une nuance. Vous qui éduquez vos enfants, pensez à cela. L'enfant n'a pas le droit d'imposer. Avons-nous le droit, nous, d'imposer à Dieu? Non, ce n'est pas ce que je veux que Dieu doit faire. Moi, je dois faire ce que Dieu veut. Je souhaiterais, Seigneur. Je désirerais, Seigneur. Conditionnel. Apprenons le conditionnel, s'il vous plaît. Nous n'avons pas l'autorité d'obliger Dieu dans quoi que ce soit. Pourquoi est-ce que Dieu suspendrait les lois de la nature? Parce qu'un homme lui dit de le faire. Gédéon doit obéir à Dieu et non dicter à Dieu. Mais ne soyons pas trop durs pour Gédéon. Comme je l'ai déjà dit, il est dans une situation particulière. Et Dieu l'a vu. C'est pour ça que Dieu a répondu à son « je veux ». Oh, la miséricorde de Dieu! Oh, la grâce de Dieu! Il était parmi les seuls hommes de sa génération prêts à faire la volonté de Dieu. Voilà. D'après ce que nous savons du temps des juges en Israël, il n'avait pas ou très peu de connaissance de la parole de Dieu, comme nous l'avons déjà dit, de cette parole écrite. Il avait grandi dans un environnement païen, dans une famille idolâtre. Les erreurs de Gédéon ne doivent pas être un exemple pour nous. Ce qui est excusable dans la vie de Gédéon n'est pas excusable dans notre vie à nous. Nous avons la parole de Dieu. Cette méthode utilisée par Gédéon ne solutionne aucun problème. Non. Le matin suivant, quand Gédéon va vers le pressoir et il voit la toison imprégnée d'eau et le sol tout autour sec, alors il se met à penser. Comment puis-je savoir que cela vient de Dieu? Il est évident que la toison retiendra l'eau. C'est de la laine avec tous les poils laineux, c'est comme une éponge. Il est évident que la toison retiendra l'eau, mais aussi il est évident que l'eau ne va pas rester sur le rocher. Elle ne va pas rester sur cette terre, tout autour. Et ce rocher et cette terre va sécher très rapidement avec le vent qui souffle. C'est peut-être une coïncidence. Ah! Vous voyez le cœur de l'homme? C'est peut-être une coïncidence. Le doute est toujours le doute. La toison ne solutionne pas le problème. Alors, il reformule sa prière, mais il sent qu'il va un peu trop loin. Il sent qu'il va un peu trop loin et il dit, « Que ta colère ne s'enflamme pas contre moi et je ne parlerai que cette fois. » Et après, je ne parlerai plus. Gédéon, tu es un gamin. Tu manques de maturité. Mais Dieu est un Dieu de compassion. Gédéon pense, recommençons l'expérience. Je ne suis pas sûr du résultat. Cette fois, je demande le contraire, que le sol soit mouillé et la toison soit sèche. Aïe, 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 que tu es compliqué. Le problème avec la toison est que ça ne donne pas de certitude. Rien n'est plus sûr que la parole de Dieu. Alors, base-toi sur ce qu'il a dit, sur la révélation. Dieu a répondu à Gédéon et a fait ce qu'il lui a demandé. À cause de sa sollicitude, à cause de sa grâce, à cause de sa compréhension. à cause de la situation, à cause des circonstances dans lesquelles Gédéon se trouve, à cause du manque de maturité, de connaissance de la parole de Dieu. Sachez que Dieu est toujours plus exigeant avec ceux qui connaissent. Bien souvent, nous voyons la manifestation extraordinaire de la révélation et de la guérison parmi des païens qui l'ignorent et qui ne savent rien que parmi ceux qui connaissent. Tu veux la guérison, elle est pour toi. Dieu veut la donner, oui, mais ne sais-tu pas qu'il y a des conditions d'abord que tu dois remplir? Dieu ne te doit rien, il ne te doit pas la guérison, mais ce qu'il attend de toi, c'est l'obéissance. Et combien d'hommes et de femmes, à cause de leur désobéissance, portent des conséquences dans leurs activités, dans leur emploi, dans leur travail, certaines fois même dans leur santé. Pourquoi? Parce qu'ils désobéissent à Dieu. Oh Dieu, sors-moi de là. Oh Dieu, guéris-moi. Oh oui, je veux le faire. Oui, je veux le faire. Mais obéis à ma parole. Dieu est plus exigeant avec ceux qui le connaissent et qui ont sa parole. Oui, il était ignorant de la parole écrite de Dieu, n'ayant pas d'exemple et de modèle à suivre, ni d'enseignement. Il a grandi dans une société païenne. Dieu veut sauver son peuple Israël. Il est un Dieu de compassion. Mais Dieu, dans sa miséricorde, va utiliser un homme qui s'appelle Gédéon, un homme non qualifié, un homme imparfait, un homme ignorant, mais sincère, un homme qui obéit, oui, pour amener cette délivrance à son peuple qui a crié à lui. Il a choisi Gédéon, un homme non qualifié, faible, qui doute, qui a peur, qui n'a que peu de connaissances en réponse aux cris de détresse de son peuple. Il va utiliser Gédéon, il va délivrer Israël. Son plan se réalisera malgré l'homme. Baissons la tête. Tu nous instruis encore aujourd'hui, Seigneur. Et combien de fois nous-mêmes, nous avons, Seigneur, douté. Douté en toi, douté dans ta parole, douté dans tes enseignements. Seigneur Jésus, permets que cette parole nous instruise et que nous marchions dans l'obéissance et dans la vérité. Aide-nous, Seigneur, à nous appuyer sur ta parole. Sur ta parole, qui est une parole de vie. Tu ne mens pas, Seigneur. Tout ce que tu as dit est vrai. Peut-être que tu as posé des toisons combien de fois, mais tu n'as pas eu de réponse. Ce n'est pas que Dieu n'a rien entendu, mais Dieu veut te dire, « Ne sais-tu pas que je suis avec toi? Prie et je te conduirai. » Place ta confiance en moi et je te guiderai. Et je te montrerai le chemin que tu dois suivre. Le chemin que tu as choisi n'est pas forcément le bon. Moi, je connais un meilleur chemin. Si tu marches avec moi, je te conduirai sur ce chemin meilleur et tu te réjouiras. Seigneur, veuille sanctifier cette offrande maintenant. Veuille bénir cette offrande que nous t'apportons et ses dîmes, et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.